Question d'Islam par Al-Benshir. Aujourd'hui, nous parlons de l'islam en Asie centrale et avec une focalisation sur la Russie, avec le professeur Christian Lauchon. Christian Lauchon, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir nous parler de ce sujet. Je vous présente à nos chers amis auditeurs. Vous êtes chargé de cours à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. Vous êtes membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Et vous êtes aussi un fin diplomate, vous avez été en poste dans pas moins de 7 pays, arabes et musulmans, si nous incluons l'Iran aussi. Votre connaissance de ces questions est réelle et nous vous remercions de venir nous éclairer là-dessus. Il y a une chose qui est méconnue peut-être de nos auditeurs, c'est que la réalité de l'islam est plus asiatique qu'arabe ou africaine, comme on dit. Bien que le vocabulaire soit piégé, on parle de l'islam central et de l'islam périphérique, avec cette idée que l'islam est central quand il est arabo-centré et il est périphérique quand il est au-delà, alors que ne serait-ce que du point de vue démographique, il est plutôt asiatique. Et dans ses réalités humaines, il est toujours asiatique. Christian Lauchon, donc... Cette réalité, elle commence déjà par l'histoire.
Oui, en effet, et vous avez parlé, Ghaleb, de l'islam périphérique. Eh bien, je me demande si dans l'Empire abbasside, l'islam qui se trouvait par exemple dans le Tatarstan, c'est-à-dire maintenant au sud de Moscou, au début de la Volga, était en fait périphérique. Il y a en effet des relations incroyables entre les Bulgares qui étaient installés à ce moment-là sur la Volga et qui vont envoyer une missive au calife de Bagdad lui demandant de les aider à devenir musulmans. Les contacts ont été pris très tôt. Lorsque, effectivement, l'Empire abbasside s'installera à Bagdad ou installera Bagdad, ils vont revoir un peu cette correspondance et décider d'envoyer sur la Volga un émissaire, un diplomate d'ailleurs, de carrière, Ahmed Ibn Fadlan. Et puis là, vraiment, on peut recommander à nos auditeurs de lire ce livre qui a été publié chez Sinbad et qui s'appelle « Voyage chez les Bulgares de la Volga » et qui précisément explique l'islamisation progressive des habitants de la Volga. Si bien, alors c'est ce qu'on appelle une rahla dans la littérature arabe, vous le savez.
Une sorte de voyage et une relation du voyage.
Et de relation du voyage. Et les contacts sont extrêmement intéressants puisque là, il y a des Turcs, il y a des Persans, il y a ces Bulgares, il y a des Scandinaves, les Vikings qui sont installés aussi là. Et puis, alors il y a ce fameux empire Khazar, qui va être progressivement détruit, mais il y a également les Russes, où on les appelle les Rousses, c'est-à-dire ce sont soit des Varengs, soit des Normands, et Ibn Fadlan note « Je n'ai jamais vu de corps plus parfait, ils sont blancs et ont la peau rouge, ils portent des manteaux à deux ouvertures et sont armés d'une hache, d'une large épée et d'un couteau, ils adorent des idoles à tête humaine en bois. » Eh bien, cette rencontre montre que l'islam califal était connu jusqu'à la Volga. Et puis, il va y avoir donc la conquête mongole. Comme vous le savez, les fils notamment de Genghis Khan vont adopter des religions différentes, bouddhistes, chrétiens nestoriens, animistes. Et puis, il y a quand même Berke Khan qui devient musulman. Et puis, nous savons le passage à l'islam par Tamerlan.
Oui, allez vite, et d'ailleurs c'est ce qu'il faut, puisque ce qui nous intéresse, c'est le 19e siècle et maintenant. Mais je voudrais souligner ce point. On dit, je le dis sous votre contrôle, qu'il y a eu deux faits historiques dans la longue aventure humaine. c'est Rome et Athènes. Rome qui repartira en ayant adopté en gros la mantique grecque, la manière d'être et notamment du point de vue religieux. Et aussi les Mongols qui s'islamisent bien qu'ils fussent vainqueurs.
Tout à fait. Alors là, on s'est interrogé là-dessus. C'est simplement le contraire de ce qui se passera en Europe au XVe siècle avec la Réforme, c'est-à-dire que ce sont les peuples qui sont devenus musulmans qui vont exiger de leurs souverains qu'ils deviennent musulmans. Alors là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est donc Tamerlan devient effectivement musulman donc en 1380, et donc la Horde d'Or, son empire, est installé à Kazan, de Kazan pratiquement jusqu'à Astrakhan, et puis même en Sibérie et en Crimée. Et alors, bien sûr, les Russes vont être soumis pendant très longtemps à leur Horde d'Or. Et c'est ça qui va expliquer la réaction, par exemple, d'Ivan le Terrible. Donc, à partir Ivan le Terrible, c'est 1533-1584. Et lorsque vous visitez Kazan aujourd'hui, on rappelle effectivement cette date de 1552 où Kazan, où il y avait une très très grande mosquée, Kazan va devenir il y a encore une très grande mosquée, très belle d'ailleurs, à Kazan, mais l'empereur va faire construire une cathédrale précisément en face de cette mosquée à Kazan. Et en 1558, pratiquement toute la Volga jusqu'à Astrakhan a été prise, c'est-à-dire sur une longueur quand même de 2000 kilomètres.
Et l'action ou la réaction d'Ivan le Terrible se justifiait-elle? Parce que d'autres historiens disent que lorsque les Russes étaient soumis ou n'avaient pas pâti globalement d'une... C'est pas pour dire que les souverains musulmans étaient merveilleux. Ou est-ce qu'il y avait une sorte d'oppression qui justifiait l'action d'Ivan le Terrible?
Il y aura le mariage du tsar avec la nièce du dernier empereur de Constantinople. Et cela fera que les Russes vont acquérir l'idée qu'ils sont les descendants des Constantinopolitains, que Moscou va devenir la troisième Rome. Et donc, il va y avoir forcément une réaction de désislamisation. Et il est vrai que Ivan le Terrible, imposera à beaucoup de musulmans de devenir chrétiens orthodoxes. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à partir d'Ivan IV, on va voir l'expansion de la Russie vers la Sibérie, c'est-à-dire vers l'Est. C'est seulement à partir du XVIIe siècle que la Russie va se tourner vers l'Empire ottoman. Vous savez qu'il y aura à peu près une douzaine de guerres, oui, entre l'Empire ottoman et la Russie. Et c'est extrêmement intéressant parce que la conquête de Constantinople ferait que la troisième Rome se serait réinstallée dans la deuxième Rome. Il faut bien penser, lorsque même on étudie la situation des musulmans en Russie et la situation de l'islam en Russie, il y a toujours, actuellement, après l'époque soviétique, il y a ce désir, finalement, de faire que la Russie est le symbole de l'orthodoxie. C'est ça, je crois que c'est extrêmement important pour comprendre. Et puis, donc, il va y avoir la conquête de la Crimée avec Catherine II. Et là, nous avons quelque chose d'extrêmement intéressant parce que Catherine II était islamophile.
Oui. Je ne veux pas vous interrompre. J'ai cru comprendre que, bien qu'elle fût en guerre et en friction avec l'Empire ottoman, mais elle choyait, si vous pardonnez l'expression, ses sujets musulmans pour des raisons stratégiques, parce qu'elle ne veut pas qu'il y ait une sorte d'insurrection, de rébellion de ces sujets-là. Mais c'est aussi peut-être une inclination particulière qu'elle avait envers ces sujets, d'où cette islamophilie dont vous parlez.
Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier, par exemple, au moment de la révolte de Bourgatchev contre Catherine II, Catherine II avait très peur que les sujets musulmans se dressent contre elle. Et donc, elle va c'est vrai, refaire la guerre à l'Empire ottoman. Et là, il va y avoir une date extrêmement importante, et si vous le permettez, on en parlera tout à l'heure sous l'ère Poutine, c'est qu'il y a ce traité qui va être signé entre Constantinople et Moscou, et ce traité, ou Saint-Pétersbourg, bien sûr, ce traité qui est le traité de Koutchouk-Kainarchi, c'est 1774. On a conquis la Crimée. La Crimée est pratiquement entièrement musulmane à l'époque. Et Catherine II va renouveler, si vous voulez, le traité qui avait été signé par la France avec l'Empire ottoman en 1536, c'est-à-dire les fameuses capitulations, Imtiyazat, qui va faire que Catherine II va reconnaître que le sultan ottoman est le père spirituel des musulmans de Crimée, et puis ça sera aussi des musulmans du Caucase, parce qu'on va commencer aussi à conquérir le Caucase. En échange, Catherine II devient la protectrice des chrétiens orthodoxes de l'Empire ottoman, comme la France était considérée comme protectrice des chrétiens catholiques de l'Empire ottoman. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque, si vous permettez qu'on fasse ce raccourci, lorsque Poutine s'est engagé dans les guerres de Syrie, la déclaration première qu'il a faite, c'est qu'il venait au secours des orthodoxes, des chrétiens orthodoxes de Syrie, donc ancien sujet de l'Empire ottoman, c'est-à-dire qu'il rappelait cet accord de Koutchouk-Kainarchi.
Vous pensez que c'est une sorte de réactivation ou une reproduction de faits historiques qu'on peut retrouver dans les relations internationales ?
Bien sûr. Poutine connaît admirablement l'histoire. Il l'utilise. C'est quelqu'un qui... On peut ne pas passer là-dessus. Et vous savez que pendant très longtemps, d'ailleurs, même au temps des Soviets, les Russes avaient toujours soutenu, pensez par exemple à Nasser, entre autres, ils ont toujours soutenu des régimes musulmans qui étaient contre l'Occident. Ça a toujours été la carte, et vous l'aviez souligné tout à l'heure. Et puis, nous allons passer alors à quelque chose qui est extrêmement important.
Là, on finit le 18e siècle, on passe au 19e siècle.
On passe au 19e siècle, et là, il y a un personnage qui va rester dans l'histoire de l'islam russe, c'est l'émir Chamil. Et ce Chamil, qui est un Daristanais, c'est pas un Tchétchène, il est du Daristan, et l'émir Chamil va défendre le Caucase contre les Russes. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que dans la littérature russe, notamment Tolstoï, entre autres, qui a été, vous le savez, il a servi comme officier au Caucase, à ce moment-là, toute l'aristocratie qui servait comme officier dans la conquête du Caucase, il a écrit un petit livre, justement, sur l'émir Chamil en changeant les noms. Et c'est dans l'histoire de la pensée russe, dans la littérature russe, il y a eu cette conquête du Caucase. Et ça, c'est quelque chose qui est passionnant parce que à tout moment, il y aura un rapport entre musulmans et chrétiens, malgré les différences souvent idéologiques et théologiques. Vous verrez par exemple que dans les grandes villes de la Volga, l'aristocratie musulmane va fournir les grandes familles russes qui vont soutenir le régime tsariste. C'est extrêmement intéressant. On verra les Youssoupov, par exemple, etc. Toutes ces familles sont d'origine de la Volga.
Mais pour revenir à Chamil, à l'émir Chamil, qui aussi a matiné son insurrection par des références religieuses, bien qu'il ne fût pas non plus tchétchène, il va y avoir très tôt, ou dès le 19e siècle, une sorte d'opposition entre Russes et Tchétchènes.
Tout à fait. Mais vous savez, l'ensemble des États du Caucase Nord, c'est-à-dire le Caucase Sud, vous le savez, avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, sont des États qui ont été peu à peu conquis par la Russie. Mais le Caucase est resté extrêmement hostile Et les Caucasiens ne sont pas tous, les Caucasiens du Nord ne sont pas tous musulmans.
Oui, oui, bien entendu.
Il y a également des chrétiens parmi eux.
Pour l'anecdote, mais je ne suis plus sûr à qui je peux attribuer les vers d'une berceuse, si c'est au poète Lermontov ou au Lewontov, qui est pour faire dormir les enfants non musulmans, c'est « Dors, dors, sinon le Tchétchène viendra te faire peur ».
Tout à fait, tout à fait. Ils ont joué un rôle de contre-pouvoir de Moscou. Et puis, c'est pour ça d'ailleurs qu'à cette époque-là, il y a eu une émigration extrêmement forte de Caucasiens dans l'Empire ottoman. C'est-à-dire que l'Empire ottoman s'est vu, nous sommes en train de parler des réfugiés de la guerre de Syrie, de la guerre d'Irak, de toutes ces guerres actuelles au Moyen-Orient, mais l'Empire ottoman au XIXe siècle a vu d'abord peu à peu des habitants des Balkans qui se sont réfugiés dans l'Empire ottoman, mais aussi des Criméens, des Azéris, des Caucasiens, des Tatars, parce que il y a eu, il faut le dire aussi, la christianisation forcée de à peu près de 12 000 Tatars qui étaient sur la Volga. Oui. C'est-à-dire, les choses ne se faisaient
et
pas dans la tendresse.
Et d'autres aussi qui ont dû se réfugier dans l'Empire ottoman.
Qui se sont réfugiés dans l'Empire ottoman. Et je pense que aujourd'hui, cela peut expliquer certaines réactions en Turquie. Il faut toujours penser que l'histoire est toujours présente. Et alors, il y a quelque chose qui va se passer, mais peut-être que vous souhaitez qu'on en parle plus tard. Nous avons parlé un peu des relations politiques, mais il faudrait parler quand même de la pensée musulmane telle qu'elle a été exprimée dans de nombreux livres publiés par des musulmans sur la Volga, etc. C'est les mouvements qui vont conduire au mouvement jadid.
Nous en parlons immédiatement après, et c'est ce deuxième temps fort de l'émission. Je dis simplement à nos auditeurs que nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Christian Lauchamp qui est chargé de cours à l'Université Paris 2, Panthéon Assas, et membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Et vous êtes à la fois historien et diplomate en poste dans moins de 7 pays arabes et musulmans, si j'inclus l'Iran, où vous y avez passé aussi une grande partie de votre carrière. On est en plein 19e siècle, sous la férule de l'Empire des Tsars. Ailleurs, dans le monde islamique, il va y avoir le mouvement dit de la Nahda, terme arabe qui renvoie à une renaissance, réveil, renouveau, résurrection même. Et quelque chose de similaire, vous l'avez évoqué, du nom de Jadid, le jadidisme. Et le mot « djadid » renvoie aussi à un mot arabe qui veut dire « nouveau ». une sorte de rénovation en réalité de la pensée islamique. C'est un mouvement très peu connu, si vous pouviez nous le présenter, et qui était avant-gardiste dans ses doctrines et aussi dans ses conséquences.
Tout à fait, Ghaleb. Effectivement, le mouvement jadid, comme vous l'avez dit, c'est le mouvement du renouveau, de la réforme. Être moujadid, c'était opposé à mukhallid, c'est-à-dire donc conservateur.
Et ancien.
Mais il faut se rappeler de quelque chose qui n'est pas toujours connu. Le mouvement mu'tazilite de l'époque abbasside, c'est-à-dire donc on le situe à peu près, si vous voulez bien, c'est un peu la fin de l'empire omeyyade, c'est-à-dire vers les années 740, 750, et puis ça va aller jusqu'en 830. C'est un mouvement de réforme et de relecture coranique.
Rationaliste.
L'introduction du rationalisme en islam. Or, si l'on voit par exemple des personnalités comme Maturidi, beaucoup vont se réfugier, lorsque les persécutions vont se faire donc vers ce mouvement, beaucoup vont se réfugier au Yémen. Mais beaucoup vont aller dans l'Ouzbékistan actuel, qui n'existait pas encore, et donc on l'appelait le Turkestan, si vous voulez. Et c'est extrêmement curieux parce qu'il va durer. C'est-à-dire ce mouvement par les écrivains, par les penseurs, ce mouvement mu'tazilite va rester. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'islam périphérique. Ben oui, c'est finalement au bout de l'empire, ça va devenir l'empire ottoman à l'époque. Tout au bout, il va y avoir dans la périphérie du monde islamique,
aux confins.
Et donc, comme vous avez évoqué ce mouvement de la Nahda, qui aura été une résurgence de la pensée arabe, et puis surtout de l'utilisation de l'arabe, et puis de transformer l'arabe en une langue moderne et scientifique, du côté naturellement du Turkestan, où l'arabe est moins connu, sauf par les oulamas, c'est la pensée.
Les oulamas étant les savants ou les docteurs de la loi.
Les savants, les docteurs de la loi. Pour nos auditeurs, ils savent notamment ces mouvements des confréries musulmanes, Naqshbandiya, etc., qui sont issus précisément de Bukhara et de toutes ces villes qui ont contribué à un extraordinaire épanouissement de la pensée musulmane. Et comme vous l'avez dit, Ghaleb, moderniste, c'est absolument incroyable. Et donc, ce mouvement jadid va commencer notamment dans la bourgeoisie de la Volga, c'est-à-dire les grandes villes de la Volga, Samara, entre autres, Razan et même Astrakhan. Il était d'usage, puisque nous sommes à peu près au milieu du 19e siècle, que les grandes familles bourgeoises envoient leurs enfants dans l'Ouzbékistan actuel, c'est-à-dire à Samarkand et à Bukhara, où étaient les meilleures écoles. Et ces meilleures écoles n'étaient pas des écoles traditionnistes, sans nuance.
Ce ne sont pas les madrasas dans le sens dépréciatif de nos jours.
Exactement. Comme vous venez de le dire, c'est au contraire la recherche d'un renouveau dans l'islam, et là, il va y avoir quand même un certain nombre de penseurs très importants, qui parfois d'ailleurs écrivent en arabe, parce qu'ils écrivent en arabe pour être lus. C'est extrêmement important ce rapport qu'il y a entre ces confins, comme vous venez de le dire, et puis le centre du monde arabe. Je pense par exemple à Abdel Nasser el-Qursawi, 1776-1812. C'est un Bukhariote, il est né à Bukhara. Il est affilié à la confrérie Naqshbandi et il critique le taqlid, c'est-à-dire donc le conservatisme
et
de l'administration religieuse.
Le mimétisme stérile.
Bravo, le mimétisme stérile. Et son ouvrage qui est rédigé en arabe, Le guide des serviteurs de Dieu, sera publié à Kazan, beaucoup plus tard, en 1902. C'est-à-dire qu'il va y avoir une continuation absolument incroyable. Si vous permettez, je nommerai un autre penseur, Mahmoud Khodja Behboudi, 1874-1919. Il est né à Samarcande, c'est un juge. Il voyage en Arabie, en Égypte, au Caucase. Il lance deux périodiques. La presse musulmane moderniste sera donc publiée dans les villes de Boukhara et Samarcande. Finalement, malgré l'occupation, alors vers les années 1870, de cette région par les Russes, cela va continuer. C'est-à-dire cette modernité va continuer. Et il va lancer deux périodiques, Samarkand et puis Aïna. Aïna, c'est le miroir en persan. Et il sera considéré finalement comme l'idéologue du jadidisme. Et il y aurait certainement intérêt pour des chercheurs, mais je suis persuadé que dans la recherche russe, ce doit être fait, de rechercher ces ouvrages et peut-être de les rééditer.
Bien entendu, je pensais tout en vous écoutant aussi à la figure d'Ismaël Gasplinski, qui a joué un rôle à la fois de doctrinaire, mais aussi d'homme politique, pour insuffler à ce mouvement jadide, à ce mouvement de réforme, très peu connu, j'insiste encore, des idées novatrices et humanistes.
Alors, je vous remercie d'avoir rappelé Ismaël Gasplinski, donc pour nos auditeurs, 1851-1914.
Plus tard, sa date de naissance donnera lieu, mais sans aucun lien, avec la journée de la femme. Il est né un 8 mars.
Il est né un 8 mars.
En 1851.
En tout cas, lui étudie à
Moscou. Est mort en 11 septembre, mais c'était une autre histoire, en 1914.
En 1914, il n'aura pas vu là. Il étudie à Moscou, il étudie à Paris, il étudie à Istanbul. Et là, naturellement, ce n'est plus Boukhara, si vous voulez, mais ce sont des villes beaucoup plus modernes. Et en 1883, il fonde le premier journal turcophone édité en Russie, qui s'appelle Tarjoman. Il le fait à Bartasaray, et il profite des réformes structurelles dans l'enseignement coranique et l'enseignement public pour améliorer le niveau social des musulmans russes qu'il va développer dans son livre « L'islam russe ».
Oui. Alors, et Tarjuman, le titre même du journal, veut dire à la fois « celui qui traduit » et « celui qui interprète ».
Tout à fait, bien sûr, c'est... Tarjoman a le sens, effectivement, c'est un mot, me semble-t-il, d'origine persane, qui, effectivement, c'est le livreur, celui qui livre la pensée un peu. Il faut reconnaître dans cette recherche un très grand savant russe, qui était d'origine balte, le professeur Bennigsen, Alexandre Bennigsen, qui a beaucoup travaillé sur l'islam jadid. Et il va notamment parler de deux autres réformateurs. Alors, ces réformateurs, c'est plutôt dans l'Oural. C'est bien sûr Sultan Galiev, qui est celui qui va être extrêmement connu. Et puis Mir Sultan Ali Oglu, 1880-1942, dont le père est un enseignant dans une madrasa. Il est d'origine bashkir. Il est laïque, il est même agnostique. Ce qui pourrait paraître incroyable aujourd'hui, et il apparaîtra comme un initiateur du tiers-mondisme et du mouvement des peuples prolétaires. En 1895, il entre à l'école normale de Kazan. Kazan est vraiment la pépinière des jeunes penseurs musulmans. C'est extrêmement intéressant à remarquer.
On pourrait même
dire
que c'est la grande métropole de la pensée réformatrice à ce moment-là.
Tout à fait, tout à fait. Donc, il sera tour à tour journaliste et professeur à l'école tatare de Bakou. Et là, on assiste à quelque chose qui est prodigieux quand on pense à ce que recommande l'islam et toute religion. Il va adhérer au Parti communiste en 1917, ce qui est incroyable. C'est-à-dire ces musulmans communistes qui, il faut le dire aussi à nos auditeurs, n'ont pas abandonné leur religion. Mais ils soutiennent le Parti communiste car ils voient qu'il va les sortir de la torpeur tsariste et aider au développement de l'humanité.
Parce que chez ces penseurs-là, l'idée d'être au Parti communiste, c'est une sorte de conformité dans les valeurs dites coraniques de solidarité, d'entraide, d'égalité aussi, d'équirépartition des richesses, qu'il trouve dans le manifeste du Parti communiste et dans les idées marxistes à ce moment-là.
À ce moment-là. Et d'ailleurs, j'imagine que le mouvement marxiste à ce moment-là ne sera pas hostile à l'intégration de musulmans. Et il va jouer la carte du parti. Il va devenir très vite commissaire politique. Notamment, il va grimper tous les échelons du comité central du Tatarstan, puisque c'est le Tatarstan qui regroupe toutes ces républiques. Et il devient commissaire à l'éducation nationale et aux nationalités. C'est extrêmement intéressant de voir qu'un citoyen musulman soviétique de l'époque a ce pouvoir. C'est...
Je dirais quelque chose sans vouloir commettre un anachronisme, c'est comme s'il y avait une, chez les promoteurs, à commencer même par Lénine, de ces idées communistes, une discrimination positive pour qu'au commissariat, le haut commissariat au peuple, il y ait cette incitation à donner la place aux autochtones. On aurait parlé même d'indigènes.
Tout à fait. Ce sont des bashkirs hein, qui sont mis en valeur parce que il est vrai, et nos auditeurs le savent, que beaucoup de musulmans ont pris fait et cause pour les Russes blancs et donc ont soutenu les tsaristes. Et donc il faut rappeler que, au contraire, les bashkirs ont soutenu les Russes rouges, si l'on peut dire. En 1918, Soultan Galiev va convoquer à Moscou une conférence des travailleurs musulmans de Russie. Et en mai 1918, il crée un musée oriental et une université musulmane pour former les cadres. C'est sa théorie du communisme national. C'est absolument incroyable puisque il paraît être, lui qui est un penseur musulman, il paraît être un des penseurs du Parti communiste. Il va donc continuer, il va enseigner à l'Université communiste des travailleurs de Moscou, mais déjà, Staline commence à se méfier un peu de tout ce qui est effectivement...
Là, vous êtes quoi, au milieu des années 20, vous arrivez aux années 30 ?
Ah oui, on est dès 1923. Il y a un risque là, on le laisse libre, mais il va travailler en Géorgie, à Moscou, comme journaliste. En 1928, le Politburo organise une campagne anti-islamique d'une grande ampleur dans toutes les régions. En 1930, Galiev propose, dans un article, de jeter les bases d'un communisme islamique. Vous voyez le télescopage de la formule.
Et l'épithète islamique sera collée à communisme. Et de nos jours, ça paraît un oxymore, mais à ce moment-là, c'était une réalité.
Ah, c'était une réalité ou un souhait. Et ses disciples sont arrêtés à Kazan, à Moscou, en Asie centrale, et il va être exécuté dans un goulag en 1942. Donc là, si vous voulez, c'est un peu la fin du mouvement Jadid, qui était un mouvement qui essayait de concilier l'islam avec la modernité et l'islam avec des régimes politiques qui n'étaient pas d'origine islamique.
Oui, ce jadidisme, si je lui attribue le suffixe « isme » comme un corps de doctrine et une pensée, finalement prendra naissance en gros au début du XIXe siècle et ça finit par ce que d'aucuns appellent les années de la terreur, donc c'est dans les années 30.
Vous avez tout à fait raison, c'est entre 1930 et 1937.
1937.
C'est 1937, c'est-à-dire tous les jadidi, Vali Ibrahim, Ismail Gabit, les leaders tatars, Mir Saïd Sultan Rali, Chelebi Chihan, en fait, sont déportés, voire assassinés.
Une sorte de liquidation physique des penseurs du mouvement.
Et aussi la déportation des populations. Pensez que si les Tchétchènes en veulent beaucoup à Moscou, c'est qu'il y a eu une déportation en masse des peuples punis. On les appelait les peuples punis. Il y avait donc les Karachaï, les Tchétchènes, les Ingouches, les Balkars, les Melks, donc une abolition de leur autonomie et la division de leur territoire.
Une question, Christian Lauchon, si vous voulez bien. Mais le mouvement djihadiste avait aussi une réaction de la part des conservateurs, soit sur place, soit ailleurs, et notamment dans le monde arabe, ce que nous avons appelé en début de séance l'islam dit central.
Voyez-vous, il y a eu toujours pratiquement, que ce soit dans le centre des empires musulmans ou dans la diaspora, il y a eu finalement toujours trois mouvements de pensée. Ce mouvement de pensée que vous venez d'évoquer, qui est donc celui des Taqlidis, celui des conservateurs, c'est-à-dire donc celui des commentateurs littéralistes du Coran, c'est-à-dire donc souvent qui reste en retrait dans des pays de la diaspora. Et puis, il y a un mouvement extrêmement important qui a été signalé tout à l'heure, c'est le mouvement des confréries. Parce que ça, les confréries ont joué un rôle extrêmement important. Vous savez que beaucoup, notamment de Tchétchènes, appartiennent à des confréries. Il y a même des luttes entre deux confréries, des confréries soufis. C'est-à-dire, on a vu à un moment, on nous a montré à la télévision l'actuel dictateur de Tchétchénie,
Kadyrov,
qui était en train de danser avec ses gardes du corps. Or, c'est une danse soufie, c'est-à-dire c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que il y a chez les citoyens musulmans russes, comme d'ailleurs dans d'autres pays, que ce soit l'Égypte, le Maroc, il y a une appartenance souvent de la population à des mouvements soufis. C'est quelque chose de surprenant. Et puis, il y a la troisième école, qui est l'école que vous avez évoquée avec ce jadidisme, qui est une école moderniste. Et il faudrait peut-être se demander quel est le rôle de chacun de ces mouvements islamiques actuels.
Et l'importance, l'impact, les répercussions, si je reviens à votre triptyque, dans la psyché et dans la mentalité des l'article les toujours abusif, donc je ne dirais pas les musulmans de par le monde, mais des croyants musulmans de nos jours.
Oui, parce que il y a, vous le savez mieux que d'autres, un mouvement néo-ambaliste en Russie qui est très fort.
Et vous faites allusion au hanbalisme, qui est cette quatrième école juridique dans le monde sunnite, du nom du maître éponyme Ibn Hanbal, mort en 855, et qui serait un peu l'ancêtre, via Ibn Taymiyyah, du wahhabisme et du rigorisme actuel.
Alors, ça, en fait, en Russie aujourd'hui, on l'appelle le néo-ambalisme, et il est diffusé un peu partout, y compris d'ailleurs chez les musulmans de Sibérie. Il y a là un effort qui a toujours été fait d'ailleurs, entre autres, disons, de la part des États riches du Golfe, de faire venir un certain nombre de citoyens russes, notamment au Hajj, au pèlerinage, et donc de faire connaître cet islam, notamment en Arabie Saoudite, cet islam extrêmement littéraliste.
Şekerden şirin sözlerin Gel benim sevgilim ey nazlı dilden Gel benim sevgilim ey nazlı dilden Ben seni sevmişem bir sinelle
aygıt aygıt gelen dalınca senden el çekmeren benim olunca aygıt 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 gelen dalınca senden el çekmeren
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam, questions au pluriel, avec le professeur Christian Lauchamp, professeur à l'Université Paris II, Panthéon Assas, et membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Et vous avez été aussi un fin diplomate rompu à toutes ces questions. Vous avez été en poste dans pas moins de 7 pays arabes et musulmans, si je tiens compte aussi de votre longue présence en Iran. Pour cette dernière partie de l'émission, si vous voulez bien, Christian Lauchamp, parlons de l'actualité, disons des questions un peu contemporaines. Après cette purge que vous avez évoquée, comment les choses se passent très brièvement, puisqu'on a eu, nous avons eu l'occasion dans d'autres, avec d'autres intervenants, de parler de la présence des musulmans sous l'ère soviétique. Mais après, de nos jours, et notamment sous Poutine, comment les choses se présentent-elles ?
Alors, on peut peut-être revenir, par exemple, prenons la ville de Moscou, qui est une ville extrêmement importante pour le nombre de musulmans, puisque Moscou, vous le savez, c'est 8 millions et demi d'habitants, et il y a 1 million et demi de musulmans. Il faut dire aussi que ce 1,5 million de musulmans ne bénéficient que de 6 mosquées, tandis que les orthodoxes ont 800 églises. Donc il y a quand même une sorte de containment qui fait que les musulmans n'ont pas pu toujours avoir de voir l'érection de mosquées, de lieux de culte.
Et cela est dû à une méfiance à leur encontre ou c'est simplement un concours de circonstances qui pourrait être aplani avec le temps ?
On va voir que cela va être aplani. Mais il y a eu aussi un concours de circonstances. Il y a eu quand même, dès le XVe siècle, des musulmans, les Tatars notamment, à Moscou. C'est pour ça d'ailleurs que les Russes utilisent le mot de Tatar pour désigner des musulmans.
Qui ne sont pas nécessairement de souche tatar, on aurait dit.
Les Tatars représentent à peu près 20% des musulmans russes. En 1783, à Moscou, une première mosquée en bois. Et puis, en 1814, une autre mosquée est érigée dans le quartier Zamosvorechye en l'honneur, c'est très curieux parce que c'est un peu comme notre grande mosquée à Paris, en l'honneur des combattants tatars et bashkirs tués dans la guerre contre Napoléon. Voyez ? En 1906, une mosquée en pierre est érigée dans le quartier Mechanski en l'honneur des soldats musulmans décédés durant la guerre russo-japonaise. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que ces mosquées ne sont pas faites tellement pour satisfaire les prières quotidiennes, mais pour commémorer l'unité, si l'on peut dire, entre musulmans par le sang. Alors aujourd'hui, l'Université islamique de Moscou a rédigé, avec l'aide de l'université égyptienne des Lazar, une encyclopédie russe de l'islam. C'est donc très intéressant parce que il y avait eu des premiers contacts sous Abd al-Nasser, et puis vous savez qu'il y a eu une sorte de séparation rapide sous le successeur donc de Abd al-Nasser, qui a renvoyé un peu les Russes. Mais il y a aujourd'hui, il faut dire quelque chose d'important, c'est que les orientalistes russes sont remarquables, c'est-à-dire donc ils font un travail extrêmement brillant, notamment sur l'ancienne littérature, notamment arabe entre autres, mais aussi l'ancienne littérature islamique.
Donc leur islamologie est savante.
C'est une islamologie savante. J'ai eu l'occasion de visiter à la fois l'Institut des langues orientales de Moscou et puis celui de Saint-Pétersbourg. C'est extrêmement frappant de voir le nombre d'iranisants, notamment, le nombre d'arabisants. D'ailleurs, je dois dire que quand je servais comme attaché culturel dans plusieurs pays, il m'arrivait avec mon partenaire, mon collègue russe, de parler en arabe, puisque je ne connaissais pas le russe, il ne connaissait pas le français. Mais je dois dire, c'est une petite anecdote, que je faisais la même chose avec mon collègue chinois. Donc là, il y a vraiment une volonté dans ces régimes d'avoir une connaissance sur le terrain, chose qui n'est pas toujours malheureusement partagée par notre pays. Le patriarche Alexis a entrepris alors une campagne internationale de contact entre la société musulmane et la société chrétienne, entre les communautés musulmanes et les communautés chrétiennes. Et ça, je crois que c'est à souligner. D'autant plus que longtemps, et c'est pour répondre peut-être à une question que vous avez soulevée tout à l'heure, Aleb, l'Église orthodoxe est identifiée avec la russité. Tandis que les églises, par exemple, donc islamiques, musulmanes, catholiques, protestantes sont considérées comme étrangères et non russes. C'est dans la mentalité. Donc, il faut vraiment il faut bien comprendre le point de vue des Russes de cette manière-là. Et puis aussi, il faut dire que le Kremlin craint beaucoup, notamment l'influence de la Turquie, oui, sur ses propres ressortissants.
Mais j'ai cru comprendre que sous l'ère soviétique, on parlait, je ne sais plus si cette phraséologie était tout le temps en vigueur, de la fraction ou de la composante, mais plutôt la fraction musulmane du peuple, quand il s'agissait de parler des musulmans alors, de nationalité, si je puis dire, ou en tout cas de confession. Et après coup, maintenant, après la perestroïka, ce sentiment de considérer les catholiques, voire la proportion de juifs et de musulmans comme des éléments allogènes à la nation?
Je pense que c'est rester au niveau de la population. Être russe, c'est être orthodoxe.
Très bien.
Voilà. Mais il n'empêche qu'il y a des raisons politiques. Et là, je crois que nous avons actuellement un président de Russie qui est très à l'aise dans ses rapports avec le monde moyen-oriental. Je dois dire que, ayant été récemment en Irak, je dois dire qu'il y a quand même, contrairement à l'attitude des Irakiens vis-à-vis des États-Unis, qui est toujours de méfiance, il y a vis-à-vis de la Russie un renouveau intéressant, parce que j'ai servi à des moments où la Russie, en Syrie par exemple, en Irak, en Égypte, était au maximum. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'intellectuels, énormément d'ingénieurs, énormément d'universitaires qui ont été formés en Russie, en Syrie, en Irak. Or, maintenant, nous sommes à la deuxième, troisième génération. Leurs descendants, finalement, par souvent les mères ou les grands-mères, sont intéressés par les contacts avec la Russie. Donc, la Russie joue sur de velours pour ça.
Et vous pensez maintenant, c'est nous qui arrivons au terme de notre émission, que l'élément islamique, aussi bien interne à la Russie, mais aussi comme un élément de diplomatie, va être considéré comme quelque chose d'apaisé, de serein, ou c'est aussi une source de tension?
Il faut dire aussi que les apparatchiks islamiques, les cadres islamiques sont très liés au Kremlin. C'est pour ça que vous avez commis, c'était dans la presse, par des Tchétchènes, les assassinats de différents imams, notamment dans le Tatarstan, qui sont ouvertement pro-régime. Il y a donc à l'intérieur de l'islam, si vous voulez, une lutte entre ceux qui sont absolument opposés à Moscou et puis ceux qui sont proches du régime.
Oui. Si nous en parlons, si c'est simplement pour faire connaître cette réalité on ne peut plus complexe de l'islam en Russie, enfin, en Asie centrale d'une manière générale, et nous avons fait cette focalisation maintenant sur le cas russe, c'est pour dire que nous devons décentrer le regard de l'Europe et de toutes les difficultés que nous connaissons, et peut-être qu'il y a matière à s'inspirer de cette diplomatie à la fois entre États, mais aussi tenant compte de l'élément religieux.
Ah, vous avez tout à fait raison. C'est la carte que joue l'actuel président. Et je crois qu'il a raison. Dans les contacts, notamment avec les pays arabo-musulmans et le Moyen-Orient d'une manière générale, que ce soit la Turquie et l'Iran, il n'est pas bon de montrer que trop de laïcisme ou de laïcité. Et donc, il faut faire très attention à cela. Ce sont des régimes qui exige l'appartenance à une religion. Et ça, Poutine l'a très très bien compris. Il poursuit, si vous voulez, en Syrie et ailleurs, ce qu'il fait dans son pays, c'est-à-dire l'attaque contre les jusqu'au boutistes, l'attaque contre la répression, notamment des mouvements révolutionnaires et des mouvements terroristes, et en même temps, le soutien appuyé au clergé, au cadre de l'islam dans ces pays.
Merci. Vous avez évoqué le laïcisme et la laïcité. Le suffixe « isme » étouffe toujours la racine selon les grammairiens. Donc autant la laïcité est un principe de neutralité et de séparation entre les ordres religieux et politiques, autant le laïcisme pourrait apparaître comme anticlérical. Merci beaucoup. Merci, cher Christian Lauchon. Merci de nous avoir édifiés par vos propos. C'était question d'islam. Et aujourd'hui, nous avons parlé de l'islam en Asie centrale et aussi en Russie. Vous retrouverez, chers amis auditeurs, toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Olivier Dupré. Et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.